les enfants de Cronos.
Nous vous avons parlé, la dernière fois, de l'histoire du Val d'Urouanne, cette micro-région de 20 km² située à 20 km au nord-est de Crépy-en-Valois, à la fin de l'Antiquité et au tout début du Moyen-Âge. Durant la période qui part de la grave crise du IIIe siècle et qui court jusqu'à l'époque de Charlemagne, on a assisté à un bouleversement profond de nos sociétés et donc de notre paysage rural, sous l'impulsion de nouveaux venus, les Germains. L'espace agricole s'est réduit, des villages ont été abandonnés, le christianisme s'est répandu, des églises ont été construites, les nouveaux rois ont privilégié leurs palais de la vallée de l'Oise et de Senlis et leurs forêts giboyeuses qui ont remplacé les terres cultivées depuis longtemps. L'époque de Charlemagne a représenté toutefois une véritable renaissance pendant laquelle des hameaux sont créés dans le Val d'Urouanne. Depuis le 7e siècle, la christianisation des campagnes est à peu près achevée. Il n'y a cependant pas une église dans chaque groupe de maisons, mais seulement dans les gros villages et dans les hameaux éloignés des villages. Le cimetière, auparavant isolé, rejoint bientôt l'église. L'habitat dispersé se réduit peu à peu, et la communauté des paysans qui vivent dans des manses, c'est-à-dire dans de petites exploitations agricoles entourées d'enclos, se rassemblent au sein de la paroisse. Ils cultivent du seigle, du froment, de l'avoine, de l'orge, des pois, des fèves, des pommiers, des pruniers, des pêchers et de la vigne, et élèvent des bœufs de petite taille, des moutons et les premiers ânes. Les villages sont encore assez éphémères. Certains apparaissent, d'autres disparaissent, même si une église y a déjà été construite. Afin de mieux délimiter les différents territoires de vie, des paroisses vont se former, ancêtres de nos communes. Une paroisse peut être née d'un démembrement d'un gros village, ou au contraire, du rassemblement de plusieurs hameaux. Aujourd'hui, les limites de nos communes nous paraissent aller de soi, immuables. Pourtant, leur tracé ne va pas de soi. Comment sont-elles nées et pourquoi ? Au départ, lorsque les églises étaient rares, les paroisses étaient très grandes. Dans le Val d'Urouanne, le cours du ruisseau qui séparait les tribus gauloises des Suétions et des Bellovaques, puis les cités gallo-romaines du même nom, et enfin les diocèses de Soissons et de Beauvais, est à nouveau choisi pour servir de délimitation à deux grandes paroisses primitives. À l'est, la grande paroisse de Verberie comprend sans doute également les futures paroisses de Saint-Germain-les-Verberies et de Ruisse, tandis que, au-delà du Rouanne, la paroisse de Levandria ou Litanobrica, on n'est pas bien sûr de l'orthographe, comprend Pontpoint, Pont-Sainte-Maxence, Noël-Saint-Martin et Noël-Saint-Rémy. La christianisation s'appuie sans doute aussi, avant le 8e siècle, sur un lieu intermédiaire entre Verberie et Pont-Sainte-Maxence, nommé Danlu, c'est-à-dire Saint-Loup en ancien français, qu'on pourrait situer près de Morue. Cela représente une sorte de tête de pont de laquelle est partie la christianisation vers l'intérieur des vallons, église de Noël-Saint-Rémy et Noël-Saint-Martin. Au fur et à mesure du développement de la population, les vastes paroisses primitives sont subdivisées en paroisses plus petites. C'est alors que les textes nous viennent pour la première fois en aide, faisant donc entrer le Val d'Urouanne dans l'histoire proprement dite. Ces documents nous apprennent la séparation, officiellement en 872, mais avant 800 dans les faits, de la paroisse de Noël en deux entités distinctes, Saint-Rémy et Saint-Martin, à la suite d'un procès entre les deux évêques concernés. Si les documents historiques sont en effet fort rares pour cette époque, il nous est tout de même parvenu l'écho d'une pittoresque querelle séculaire qui opposa les évêques de Beauvais et de Soissons à propos de la construction d'une église. Cette querelle est seulement résumée dans l'histoire de l'église de Reims à l'année 872. À Hildebald, évêque de Soissons, pour une église, objet de litige entre lui et Odon, évêque de Beauvais, que le roi recommandait de détruire. Le conflit est donc porté en cette année 872 devant le roi Charles II le Chauve, qui menace de détruire l'objet du conflit si le désaccord se prolongeait. Au vu des évêques concernés, l'église objet du litige est située au point de jonction entre les diocèses de Soissons et de Beauvais. Une fois le statut de la toute jeune chapelle de Noël, Capella de Nauda, clarifié, la paroisse est rapidement donnée à l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne par le roi Louis de Le Bègue, le fils de Charles de Le Chauve. La chapelle étant placée selon le texte In Pago Belvacensi, dans le pays de Beauvais, il s'agit donc de Noël-Saint-Rémy, et non de Noël-Saint-Martin qui dépend du diocèse de Soissons. Les deux églises sont entourées d'un cimetière du Haut Moyen-Âge. Les archéologues y ont trouvé à plusieurs reprises des sarcophages de calcaire. La paroisse de Ruisse semble également ancienne. L'édifice cultuel et la nécropole primitif ont aussi été retrouvés en fouille. De même, un culte primitif existe peut-être à l'Oroir, oratorium de Ruisse, dédié aux saintes morts et brites. L'existence de la paroisse de Saint-Germain-les-Verberies n'est en revanche pas attestée avant le début du XIe siècle. L'église est née autour d'une source salutaire, objet de pèlerinage. Cette multiplication des lieux de culte, peut-être 6, soit un lieu de culte pour 4 km², peut être replacée dans un contexte plus large. Autour de l'an 1000, les terroirs sont souvent desservis par de multiples églises. Lorsque chaque village est doté d'une église, en gros au 8e siècle, sous les Carolingiens, on a éprouvé le besoin de définir plus précisément des limites entre les paroisses, pour éviter des querelles comme celles des deux évêques. Dans le Val du Roanne, on a découvert que les limites paroissiales s'appuient en majorité sur les éléments naturels, reliefs ou cours d'eau, et les points remarquables du paysage. C'est le lit de l'Oise qui a servi de base de départ. Les limites paroissiales partent perpendiculairement à celui-ci, environ tous les kilomètres, traversent la plaine alluviale, franchissent la côte qui domine l'Oise, ou longe le Roanne, et s'interrompt à 5 km de l'Oise, sur les hauteurs du Mont Pagnotte, du Margamin ou du Haut-Montel. La paroisse de Noël-Saint-Rémy regroupe ainsi les sites de Danlu, Fosse, Robertval et Noël-Saint-Rémy. La paroisse de Ruisse comprend Ruisse, La Plaine, Nos Greniers et Bacquel. Noël-Saint-Martin regroupe les sites du Buisson aux Ânes, de Noël-Saint-Martin et de la Garenne. Saint-Germain, si ce n'est pas encore une paroisse autonome, dépend de Verberie. Dans le détail, si ces limites suivent souvent les éléments naturels, surtout les cours d'eau et les reliefs à 70%, elles passent également préférentiellement par les croix et les arbres isolés à 60%, les sources remarquables à 60%, les mégalithes et, plus rarement, les chemins. Tout ce qui précède offre donc l'image d'un terroir particulièrement dynamique et densément peuplé, gravitant dans l'orbite royale et qui acquiert une physionomie qu'il conservera jusqu'à nos jours, avec un habitat semi-dispersé dans les vallons, un peu plus concentré sur les bords de la plaine de l'Oise, mais quasi absent des plateaux secs. L'opposition est donc flagrante avec la période antique qui voyait des vallons peu peuplés et des plateaux jalonnés de grandes villas. La deuxième grande période de crise qui se place entre le milieu du IXe et le milieu du Xe siècle est causée par les invasions des Vikings, mais aussi des Sarrasins dans le sud de la Gaule et des Hongrois dans l'est. Elle entraîne bientôt la dislocation de l'Empire carolingien, l'établissement des pouvoirs locaux et la naissance du féodalisme. Au début du Xe siècle, mais parfois avant, on édifie les premières mottes castrales, ces buttes artificielles au sommet desquelles des élites bâtissent une tour défensive ou donjon. D'autres résidences sont dépourvues de mottes et de donjons et sont juste protégées par un fossé et une palissade. L'insécurité règne. Les raids normands vont durement toucher le domaine de Verberie, trop proche de la vallée de l'Oise, malgré la présence relativement fréquente du roi Eudes, et ses successeurs morcelleront progressivement le fisc au profit des établissements religieux de la région. Bientôt, en 946 et en 949, le roi Louis IV d'Outremer et ses alliés germaniques assiègent en vain Senlis, pour en déloger Hugues le Grand, le trop puissant duc des Francs. Hugues transmet son domaine à son fils Hugues Capet en 981. C'est alors qu'un événement imprévu survient. Le roi, Louis IV d'Outremer, meurt lors d'une chasse en forêt de Senlis. Les Grands de Gaule, dirigés par l'archevêque de Reims, Adalbéron, acclament alors comme roi le comte de Senlis et duc des Francs, Hugues Capet. C'est la fin de la dynastie carolingienne et le début de la dynastie capétienne qui régnera sur la France pendant près de 1000 ans. Mais ceci est une autre histoire.